coq chanter et jour paraît, tout s'est debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
Aujourd'hui, nous visitons une ferme au nom poétique. En effet, la ferme Dessine-moi une brebis se situe à la Baume Cornillane, petit village de la Drôme au pied des montagnes de la Raille, premier contrefort du Vercors.
Ladies and gentlemen, our train is about to leave. Please mind the doors.
C'est un prélude au Salon agricole international des techniques bio et alternatives dans la Drôme que les chambres d'agriculture nous invitent à cette visite. On quitte donc Paris par le train direction Valence, ce qui nous laisse le temps de vous parler de cet événement. Organisé tous les deux ans par les chambres d'agriculture, le Salon Tech & Bio représente l'opportunité de découvrir l'ensemble des nouvelles techniques de production biologique et alternative. Cette année 2019, le Salon Tech & Bio a eu lieu les 18 et 19 septembre 2019 à Bourg-les-Valence dans la Drôme, au lycée agricole du Valentin. Sur plus de 15 hectares, une centaine de démonstrations en plein champ de techniques de production dans les secteurs d'activité, avec des experts sur le terrain garants de l'innovation, de la performance et de la pertinence de ces techniques. Après la gare de Valence, c'est en autobus que notre petit groupe gagne le village de la Baume Cornillane. Et comme il se doit, notre premier interlocuteur se nomme Philippe Noyau, agriculteur, président de la Chambre régionale d'agriculture Centre-Val de Loire. Avec lui, c'est l'occasion de voir les formes alternatives d'agriculture.
Je suis agriculteur dans le Loir-et-Cher, en région centre, en GAEC avec mon frère et mon épouse, sur de multiples productions, entre autres des asperges vertes, des noix, des volailles en vente directe.
D'accord. Alors, on m'a dit que vous êtes monsieur agriculture bio.
Alors, je ne suis pas en agriculture biologique. Nous sommes en agriculture de conservation. C'est-à-dire que nous privilégions la vie du sol et la structure du sol pour que des vers de terre puissent vivre.
Ce que vous appelez un sol vivant.
Un sol vivant, c'est un sol poreux qui retient l'eau et où en fait il y a de l'air et de l'eau en même temps. Donc pour qu'il y ait les micro-organismes vivent le mieux possible, pour que vraiment les plantes puissent pousser facilement sans être asphyxiées.
Ah, c'est ce que vous appelez l'agriculture de conservation des sols.
Ouais, l'agriculture de conservation, c'est effectivement conserver le sol, enfin de façon le bouger le moins possible, pour le moins le déstructurer le moins possible, pour que les vers de terre puissent fonctionner et en fait descendre jusqu'à un mètre de profondeur et remonter et donc faire des tuyaux un petit peu partout.
Pour aérer le sol.
Pour aérer le sol. Donc dans les trous, il y a de l'air et de l'eau.
Et comme ça, la plante est à l'aise.
Voilà. Sinon, s'il n'y a pas d'aération du sol, l'eau reste en surface et en fait, il n'y a pas de stockage d'eau dans ce sol-là.
Et dans ce sol, il n'y a pas que les vers de terre, il y a d'autres habitants.
Il y a les micro-organismes, 80% de la vie animale est sous terre.
À 80%?
80% est sous terre, exactement. Donc c'est des milliards de micro-organismes qui sont dans le sol.
Et chacun a son rôle au bénéfice de la plante.
Mais bien sûr, chaque animal souterrain est important pour la vie de ce sol, pour le développement des plantes après qui viennent derrière. Donc à nous de faire de façon qu'il y ait des plantes en permanence qui poussent, des plantes qu'on va laisser au sol et d'autres plantes qu'on va récolter.
Ben, je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire voilà, j'ai mon sol, je laisse pousser les mauvaises herbes, et je viens, je les écrase, ou en tout cas, je les détruis d'une façon ou d'une autre, pour qu'elles s'incorporent à la terre et soient bénéfiques.
Voilà, le principal, c'est qu'en fait, il y a des plantes qu'on remet au sol pour que le sol vive, puis après, on implante d'autres plantes qu'elles, on va récolter pour nourrir les humains.
Tout à l'heure, je vous ai écouté dans le bus. Il y a d'autres techniques aussi dans cette agriculture de conservation des sols. Il y a aussi l'association des cultures.
Voilà. Alors, on privilégie, on essaie de faire de façon que le sol produise l'azote. Alors, on implante des protéines. Alors, les protéines, c'est les pois. Ça, chacun va comprendre ce que c'est qu'un pois, une févrole, du soja. Donc, ces cultures-là.
C'est des légumineuses.
C'est des légumineuses qui fabriquent de l'azote. Et les plantes suivantes bénéficieront de cet azote qui est produit par cette plante-là. Il y a plein de vie partout. Donc à nous de la privilégier pour qu'elle soit bénéfique pour les cultures suivantes, pour notre propre production.
Ah, ça veut dire que par exemple, j'ai un nuisible dans mon champ, plutôt que de venir mettre des produits chimiques, vous connaissez d'autres nuisibles, d'autres insectes qui vont manger celui qui m'embête.
On observe les insectes nuisibles et on regarde s'il y a des insectes qui sont auxiliaires, favorables. Et si on considère qu'il y a des nuisibles en faible ou moyenne quantité et qu'il y a suffisamment d'autres animaux, de petits insectes qui vont manger cet insecte-là, on n'intervient pas. En agriculture de conservation, en bio, on n'intervient pas puisqu'il n'y a pas d'insecticides ou peu d'insecticides. On a d'autres solutions pour les insectes, bien d'autres solutions. On peut aussi pulvériser du sucre sur une plante pour qu'elle soit moins appétante pour l'insecte.
Ah, parce que le sucre, ça repousse l'insecte.
Parce que la plante va l'absorber et en fait, sa cuticule, la surface de la feuille, sera pas appétante et l'animal dira, mais en fait, c'est pas la plante que je veux manger parce que c'est pas ça.
En fait, on la déroute, quoi.
On la déroute. Il y a aussi d'autres solutions, c'est d'implanter plusieurs plantes dans le sol, des plantes qui vont, elles, être détruites par le climat, par le gel ou par la chaleur. Et en fait, cette plante-là va attirer les insectes. Et les insectes n'iront pas manger la plante qu'on veut protéger. Donc ça, c'est tout l'art de cette agriculture de conservation. On est en permanence en fusion pour regarder ce qui se passe dans la nature et favoriser la nature pour qu'elle nous aide, nous, et avoir le moins d'intervention possible humaine.
Maintenant, l'agriculture biologique, qu'est-ce qui caractérise cette agriculture biologique ?
L'agriculture biologique n'utilise pas de produits de synthèse.
Aucun ?
Aucun produit de synthèse. Par contre, elle utilise des produits naturels, dits naturels, qui sont comme le soufre, le cuivre, les purins d'ortie, de consoude. Enfin, même nous, en conventionnel, on essaie d'utiliser aussi ces formules-là pour abaisser le nombre d'interventions phytosanitaires qui soient de synthèse.
En fait, chaque essence végétale a son utilité, à moi de savoir en tirer profit.
Alors c'est très complexe, mais c'est ça l'art de l'agronomie et c'est ça l'art de l'agriculteur. C'est de faire avec son milieu, de protéger au mieux son milieu et de produire de la nourriture en quantité et saine.
Je vois si j'ai bien compris l'idée. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a fait du conventionnel. On a utilisé toutes les machines possibles. On a maltraité la terre comme on pouvait. On a utilisé tous les produits possibles. Et au bout d'un moment, on s'est dit il faut qu'on arrête.
Voilà, on est revenu à l'agronomie. C'est-à-dire que on va pas accuser, et je suis pas comme ça, mais on va pas accuser nos prédécesseurs, nos parents, nos grands-parents. Dans les années 60, donc il fallait produire. Donc les agriculteurs ont produit. On leur a autorisé et on leur a fourni des produits de synthèse qui étaient très toxiques. Hein. Les nouveaux sont pratiquement, enfin, la toxicité a baissé. Tous les produits les plus toxiques ont été supprimés depuis déjà 10, 20, 30 ans, certains produits. D'autres ont été homologués. Et en même temps, les agriculteurs ont dit, mais il faut peut-être retourner vers l'agronomie. C'est le travail des chambres, entre autres, d'agriculture, mais c'est aussi le travail des instituts. Tout le monde connaît l'INRA et tout ce qui est l'ITCF sur les grandes cultures. Enfin, tous les instituts, mais même les lycées agricoles travaillent aussi sur ces virages. Mais depuis un certain nombre d'années, de virages vers l'agroécologie. C'est-à-dire on regarde ce qui se passe autour de nous. On profite de ce que la nature nous donne. Et notre objectif, c'est de ne pas la détruire pour qu'elle soit favorable.
Je vous remercie. Aujourd'hui, on en est à 95% d'agriculture conventionnelle et 5% d'agriculture biologique. Deux raisons à cette situation. Au niveau du producteur, on est au début du processus d'appropriation des différentes techniques alternatives et au niveau du consommateur, il faut que le marché du bio se crée et se développe. Il faut bien que l'agriculteur puisse vivre des revenus de son travail. Dans la ferme Dessine-moi une brebis où nous nous trouvons, la commercialisation s'appuie sur ce que les techniciens appellent le circuit court. Celui qui nous reçoit se nomme Léo Girard. C'est en 2013 qu'il construit sa ferme en polyculture, élevage, brebis laitières, vaches allaitantes et cochons, avec transformation du lait sur place à la ferme en yaourt et fromage. Aujourd'hui, la ferme compte 4 bâtiments où se trouve la fromagerie, la charcuterie, la bergerie, l'étable pour les vaches de race Aubrac, la porcherie, le stockage de l'ail et du matériel agricole, ainsi qu'une toute nouvelle boutique de vente à la ferme.
J'ai 26 hectares sur la ferme et on monte à 30 hectares selon les locations annuelles qu'on a pour certaines cultures.
Ah, ça veut dire que pour certaines cultures, vous louez chez les voisins?
Ouais, pour certaines cultures, on loue chez les voisins et on loue avec des baux donc, qui sont remis et renégociés chaque année.
Nous sommes dans quel village ici?
Nous sommes à Ourche.
À Ourche, parce que je suis le prospectus, j'avais pas lu ça comme ça.
On est à la limite, l'exploitation est basée sur deux communes. Ourche et la Baume-Cornillane. On a des bâtiments sur l'une et des bâtiments sur l'autre.
Oui. Et on est à combien de kilomètres de Valence?
On est à 25 kilomètres de Valence.
D'accord. Alors pourquoi vous avez appelé votre ferme Dessine-moi une brebis?
J'ai appelé ma ferme Dessine-moi une brebis en hommage au Petit Prince. Parce qu'ici, il n'y avait rien, il fallait que je construise la ferme. Et donc, comme le petit prince qui veut dessiner une brebis, on lui dit, la brebis, imagine-la, elle est dans la caisse, elle est comme tu as envie. Moi, ma ferme, j'avais juste à l'imaginer, à rêver d'elle telle que je la voyais, et je l'ai construit comme je l'imaginais.
Et vous avez décidé d'emblée de faire du biologique?
Oui, j'ai décidé tout de suite de démarrer en bio. Les conversions ont mis plus ou moins longtemps selon les productions parce qu'il y a besoin d'infrastructures, il y a besoin de bâtiments, voilà, de mettre les choses en place. Mais j'ai tout de suite démarré en bio avec la conviction de tout passer en bio.
Moi, on m'a toujours expliqué que, en réalité, le bio, ça ne gagnait pas du terrain parce que la conversion n'est pas simple et que ceux qui sont en conventionnel, ça fait peur.
Effectivement, sur un hectare, on produit moins en bio, ça c'est sûr. Après, le prix des productions n'est pas le même. Donc, ça coûte plus cher à produire parce que les intrants coûtent plus cher, l'engrais en bio coûte plus cher. Il y a plus d'interventions mécaniques, il y a plus d'interventions humaines.
Il y a plus de travail.
Donc, il y a plus de travail. Sur une ferme comme la nôtre, il y a 25 hectares, il y a de l'élevage. On est 5 et demi même à travailler avec l'apprenti. Une ferme en conventionnel n'embaucherait pas autant de monde. Donc ça génère quand même plus de travail. Après, en production, ça produit moins. Au niveau économique, c'est intéressant. C'est tout aussi intéressant que du conventionnel parce que les prix sont plus rémunérateurs, sont plus élevés.
Mais vous a fallu des aides financières.
On a eu des aides à la conversion. On a eu et on a encore des aides à la conversion. On avait des aides au maintien, mais on les a plus pour maintenir l'agriculture biologique. Aujourd'hui, je ne sais pas si les aides au maintien seront un jour rediscutées pour en avoir, mais si on veut développer l'agriculture bio, il faut quand même aider parce que le passage pendant 2-3 ans entre le conventionnel et le bio est douloureux.
La conversion du conventionnel au bio est une période difficile. Et cela tient au fait que lorsque l'agriculteur veut passer au biologique, il y a un délai pour que la terre et l'écosystème se purgent des intrants chimiques.
Et bien pendant un an, on produit en bio, donc avec tous les coûts de production qui sont relatifs au bio, avec le prix de revente du conventionnel.
C'est-à-dire qu'on double les prix pour la production. Exactement. Et on vend au même prix.
Au moins, les charges augmentent de 30 à 40%, voire encore plus. Et pour les prix, c'est identique au conventionnel. D'où la prime à la conversion. L'année suivante, c'est revalorisé le prix de vente parce que c'est une production qui est appelée C2, donc deuxième année de conversion. C1, C2, puis C3, où c'est l'année vraiment effective où on vend en bio, c'est le temps qu'on estime à la terre pour se nettoyer et qu'elle soit saine au niveau des produits chimiques et vraiment qu'on respecte le cahier des charges.
Ah, c'est-à-dire que pendant que vous travaillez aussi, il faut que la terre se débarrasse de ce qu'on y avait mis comme pesticides.
Exactement, c'est-à-dire que l'engrais, ça se stocke quand même dans le sol et donc on estime qu'au bout de 2-3 ans, voilà, il y a eu 2 ans où on a mis que des engrais en bio, le sol a perdu, entre guillemets, s'est débarrassé à consommer ces engrais-là qui n'étaient pas d'origine organique, quoi, qui ne sont pas agréés en bio.
Et qu'est-ce que vous cultivez ici? Parce que j'ai vu un élevage de bœufs.
Nous, on a beaucoup de production animale. Et puis après, sur les terres, on cultive... on a des prairies naturelles et temporaires. On a des luzernes. On a de l'ail. On a des céréales.
Et les brebis?
Et donc les brebis, eh ben, on transforme tout le lait qui est consommé par les brebis. Elles vont dehors du mois de mars au mois de décembre, souvent. Elles consomment de la luzerne. Et...
C'est-à-dire qu'elles vont brouter voilà. Aux alentours.
Voilà, ouais. Elles consomment de la luzerne, elles consomment de l'orge aussi, qui est produit sur la ferme. Et ensuite, on revalorise tout, on retransforme tout, là, ici, à la ferme.
Ah, ça veut dire que le fromage qu'on vient de manger, là, c'est vous, ça a été produit ici?
Oui, oui, tout à fait.
Ah oui, d'accord.
Et si il n'est pas bon, il faut s'en plaindre à moi ou à ma fromagère.
Et je vois que vous avez un stock de foin, là.
Oui, oui, bien sûr. Et on a de la paille et du foin stocké à la ferme pour toute l'année pour les bêtes.
Et ça, c'est au cas où?
Ah ben, c'est pas au cas où, c'est qu'il y a quand même une partie de l'année où elles mangent dedans, les brebis.
Ah oui, ben l'hiver.
Les vaches aussi mangent dedans une partie de l'année, il y a les jeunes qui mangent dedans. Et puis, même l'été, là, en ce moment, on n'a plus rien dehors, tout est grillé, c'est trop sec.
Ah oui, parce que cette année, il y a particulièrement une période de sécheresse.
Cette année, c'est très très sec. Ouais. Là, la fin de l'été est très dure. Ouais.
Ouais, parce qu'en venant, j'ai regardé les champs de maïs.
Alors les champs de maïs, bon, ils sont irrigués, mais ils vont être récoltés plus tôt. Parce que dès qu'ils ont arrêté l'irrigation, quand le grain est devenu dur, bon, les maïs sont complètement grillés.
Vous avez aussi un magasin de vente ici?
Oui, tout à fait. On vend à la ferme tous les produits qu'on fabrique, qu'on produit ici.
Ah, les gens viennent ici pour acheter?
Bien sûr, ouais.
Et vous ne faites pas de marché?
On fait 5 marchés par semaine.
Ça veut dire que le matin, vous êtes parti?
Voilà, voilà. Il y a 5 matins, enfin 4 matins, puisqu'il y a un marché qui est l'après-midi, où on est parti sur les différents marchés, oui, tout à fait.
Alors là, je sens que quand vous parlez du bio, que vous avez une certaine satisfaction à parler de ce que vous faites.
Bien sûr, oui. Ouais. Je suis fier des produits qu'on fait sur la ferme. Je pense que c'est des produits de qualité, ils sont bons. Voilà, c'est pas particulièrement rattaché au bio. Nous, on produit en bio parce que moi, je crois en ce label, je crois en cahier des charges bio et que j'avais pas envie d'utiliser d'intrants chimiques. Il y a des producteurs qui font un travail similaire au mien avec d'autres productions en conventionnel qui travaillent très très bien et qui sortent aussi des très bons produits, quoi, qui sont respectueux, qui font attention aux doses qu'ils mettent, qui voilà.
Est-ce que vos voisins viennent voir ce que vous faites? Ceux qui travaillent en conventionnel, j'entends.
Non, pas particulièrement, ça dépend, mais non. Globalement, non.
Mais ils savent que vous êtes un bio?
Bien sûr, bien sûr.
Et vous saviez au début que ça allait être dur, mais vous êtes quand même rentré dedans?
Oui, moi j'ai travaillé dans une exploitation conventionnelle pendant 3 mois avant de m'installer. Et j'étais l'opérateur qui faisait toutes les applications de produits sur les champs.
C'était vous qui étiez sur le tracteur pour répandre
voilà,
les produits?
Voilà, ça m'a vacciné. J'avais pas envie de travailler dans ces conditions-là pendant 40 ans, toute ma carrière.
Et vous avez dit ça suffit?
Et j'ai dit que je démarrerais en bio et que je voulais avoir la totalité de mes productions à terme en bio. Après, c'est pas un conflit bio-conventionnel. On a besoin des deux, quoi. Hein. C'est deux schémas pour moi qui doivent coexister et cohabiter et évoluer ensemble, quoi.
Est-ce
l'un et l'autre, ça doit tirer chaque schéma vers le haut, quoi.
Alors, une dernière question. Est-ce qu'aujourd'hui, en termes de revenus, vous vous en sortez?
Ça dépend ce qu'on entend par s'en sortir.
Est-ce que vous arrivez à en vivre?
J'en vis. À terme, j'aimerais en vivre mieux par rapport au temps de travail et à l'engagement que ça représente. Mais je pense que c'est nécessaire de passer par là les 5-10 premières années parce qu'on a énormément d'investissements matériels et immobiliers pour pouvoir produire dans de bonnes conditions. Donc, il faut passer par là, il faut un peu serrer les dents. Et si les choses sont bien calculées, d'ici 10 ans, quand les gros amortissements vont se terminer, et 15 ans, j'arriverai à en vivre beaucoup mieux. Ouais.
Je vous remercie.
Merci.
Allez, dans le bus. Nous étions à la ferme bio de Léo Girard à la Baume-Cornillane, petit village de la Drôme à 25 km de Valence. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayouba Traoré. Pour retrouver cette émission, www.rfi.fr. Pour nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Enfin, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.